chaque matin.
Quand une personne est capable de vous plonger dans un abîme de réflexion, en nous donnant d'une voix douce et posée son avis sur le cinéma, les frontières, l'Europe et sur Daniel Cohn-Bendit, moi je dis que Jean-Luc Godard est un grand bonhomme. Je recommande l'écoute sur le site de France Inter de l'excellent entretien entendu ce matin avec Jean-Luc Godard.
Je lisais ce matin sur le site atlantico.fr, là, qui plus est a été un site de droite, a priori, ou plutôt de centre-droit, que les Allemands, ils veulent travailler 35 heures au moins. Alors les Allemands, ils sont vachement en avance sur nous et ils veulent travailler moins de 35 heures. Bah, moi, je suis vachement en avance sur les Allemands, je travaille plus du tout. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, chérie ? Je suis au chômage. Ouais, c'est bien ce que je dis, hein. Je suis vachement en avance sur les Allemands, en fait. Allez, c'était Guillaume de Toulouse.
Bonjour, Rosemary Catrice, 72 ans. Merci beaucoup pour la retransmission du travail des gens de La Réunion. Mort d'un coupeur de canne dans un champ de betteraves. Je suis moi-même fille de poilu, mes parents m'ayant eu très tard. Mon père a fait le chemin des dames, tranché des baïonnettes. Et il me faisait souvent revivre la guerre de 14-18. C'est une très belle émission. Je vais communiquer ça à ma petite voisine réunionnaise, Aude Morel, qui passe une agrégation de lettres, Stendhal, à qui on a loué un studio complètement pourri dans le 14e arrondissement. Et voilà, on se bat. Son papa n'était pas coupeur de canne à sucre, mais enfin, tout comme. Les mauvais traitements et le mauvais accueil aux gens de La Réunion perdurent. Voilà, je vous embrasse et merci encore, ça fait chaud au cœur.
Bonjour, je vous appelle parce que j'ai écouté l'émission sur les Réunionnais et la Première Guerre mondiale. Et il est dit que les Réunionnais étaient discriminés parce qu'ils ne correspondaient pas au canon physique de l'époque en parlant de la taille de leur tour de poitrine. Il me semble que c'est pour des raisons purement médicales, car c'est un critère qui permet de s'assurer que l'individu n'est pas atteint d'une maladie pulmonaire grave comme la tuberculose qui était très courante à l'époque. C'était une petite précision de Bruno de Bordeaux.
Dis-moi Daniel, il y a un souci là. Moi j'ai voté non en 2005 pour l'Europe, mais c'était non à l'Europe qui était proposée, c'était pas un non à l'Europe tout court. Et ça fait depuis 2005 qu'on me traite d'eurosceptique, alors moi je suis un europhile convaincu, mais je voulais pas de l'Europe, mais j'en veux une quand même. Tu veux pas faire une émission là-dessus ? Je te remercie, Fred de Grenoble. Ciao, bye.
Eh ben si, on va faire une émission là-dessus, pas plus tard qu'à l'instant même. Et ça s'intitule Europe. Le mépris des peuples. Quelle est la différence entre une machine folle et l'Union européenne ? Quand une machine dérape, elle s'arrête, pas l'Union européenne. Et qui dit ça ? C'est Herman Van Rompuy, qui est pourtant le président du Conseil européen. L'Europe, des salaires qui ont baissé dans 18 États sur 27, alors que dans la seule zone euro, on compte 18,9 millions de chômeurs, dont 3,5 millions sont directement imputables à la doctrine de Bruxelles. Faillite sociale, aveuglement économique, voilà, je cite, « l'Europe dont plus personne ne veut, un monstre incontrôlable », selon l'UMP Henri Guénaud. Voilà où nous en sommes. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez un brin de mémoire, ce que fut 2005, le traité de constitution européenne, ce débat, et notamment sur notre antenne, où il faut bien dire que la majorité des journalistes, la rédaction, était favorable au oui, et on connaît les résultats. Et désormais, notre cher confrère Bernard Guetta risque de se retrouver un militant alternatif, marginal, qui s'entête et qui résiste, et ce qui est toujours très très louable, à vouloir défendre l'Europe. On va passer cette heure avec deux jeunes, disons, enfin relativement jeunes, observateurs, analystes, politologues, comme vous voulez. Coralie Delhomme, elle s'appelle. Elle vient de publier un bouquin qui s'intitule « Europe, les États désunis ». Elle est très critique et très cohérente. Et là, c'est un bon boulot. Et puis, Aurélien Bernier, vous vous souvenez peut-être, il est déjà venu nous voir, et lui, c'est un peu plus radical, le titre de son bouquin, « Désobéissons à l'Union européenne ». Voilà, on passe 7 heures ensemble, jusqu'à 16 heures ou presque, Europe, le mépris des peuples. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Quel bordel entre la SNCF et RFF, depuis que les deux entreprises se sont scindées. On le voit actuellement avec la situation rocambolesque, avec les nouveaux trains régionaux, plus larges de 200 mm, engageant le gabarit au niveau des quais, dont la SNCF sera obligée de raboter 1300. Bravo, félicitations, messieurs les maîtreurs, ingénieurs bardés de diplômes et qui avaient effectué les mesures, le ou les jours de ces relevés. Aviez-vous la vue déficiente pour différentes raisons ou lors des relevés? Êtes-vous simplement trompé dans les mesures, soit métriques ou en pouces? Et pendant ce temps, Pépi reste toujours à sa place. C'était Jean Levert.
Bonjour, le Café Repère de La Rochelle aura lieu le vendredi 23 mai à 19h, de 19h à 21h. Nous discuterons des élections européennes. Comme d'habitude, le Café Repère est le quatrième vendredi de chaque mois à la Petite Marche, rue des Trois Fuseaux à La Rochelle. Merci de venir nombreux.
Bonjour à toute l'équipe, Jean-Pierre Labasse, La Porcherie. Si parmi les auditeurs, il y a des bonnes âmes qui cotisent à la SPA, je les invite à acheter le canard de cette semaine. Ils seront certainement très intéressés. Allez. Faut supporter. Hein. Allez, à tous, bonjour.
À la montée du FN leur fait peur. Bon, ma Daniel, pour moi c'est tout simple. C'est là-bas si j'y suis, de nouveau, durée une heure. Et de nouveau, du lundi au vendredi. Sinon, c'est vote FN dimanche prochain.
Je voudrais incidemment, puisque en voici l'occasion, je m'excuse, messieurs les journalistes, vous allez être peut-être assez étonnés. Mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries. Bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait, ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire. Bien au contraire.
Salut, c'est Daniel Mermet. C'est là-bas que j'y suis avec Coralie Delhomme et Aurélien Bernier. Europe, le mépris des peuples. La reine nue. Qu'est-ce que ça veut dire, Coralie Delhomme? La reine nue. C'est le titre de. C'est le nom de votre blog?
Oui, c'est un jeu de mots. Le roi nu, la reine nue.
Ah, ok, j'étais intrigué. La reine nue. Alors, vous n'avez pas seulement un blog depuis 2011 où vous commentez l'actualité politique. Là, vous publiez un bouquin qui s'appelle « L'Europe, les États désunis ». Et oui, vous craignez, vous me disiez, je crains d'être à la mode. C'est vrai que la critique de l'Europe se généralise, hein. Sauf sur France Inter quand même, hein. Sur France Inter, les commentateurs du matin, enfin surtout mon camarade Bernard Guetta, lui reste campé sur ses positions et devient un militant marginal, alternatif, qui a quand même une belle tribune le matin, ce qui est sympathique toujours. Il n'y a qu'une radio nationale qui peut faire une chose pareille. Alors pourquoi ce bouquin, Coralie?
Pourquoi ce bouquin? Parce que moi, je m'intéresse sur mon blog depuis longtemps à l'actualité politique. J'avais l'impression que la vie politique nationale patinait, en fait. Mmh. Il ne se produit rien. D'élection en élection, on change les majorités, on change le président de la République. Mais on a l'impression que rien n'avance et que les choses sont fossilisées un peu.
Mmh. Et on a l'impression qu'on n'y peut rien, nous, en tant que citoyens.
Voilà, il y a un sentiment d'impuissance et de déprise sur le cours des choses. Alors que, justement, le propre de la démocratie, c'est qu'on vote dans l'espoir d'avoir prise sur le cours des choses. Or, à mon avis, et pour m'être intéressée au sujet, j'ai l'impression que la construction européenne qui surplombe en fait toutes les vies politiques nationales génère cette impuissance parce que c'est dans ce cadre très contraignant qu'agissent les politiques nationaux, ou plutôt qu'ils n'agissent pas, parce qu'ils sont véritablement dans un carcan. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire sur l'Europe, parce que je pense qu'elle est le cadre. Ce cadre, si on ne le subvertit pas, on ne peut rien faire au niveau national.
Alors, on a aussi avec nous Aurélien Bernier. Il est déjà venu nous voir, Aurélien Bernier, sur ce thème de l'Europe. Et là, Aurélien Bernier m'a envoyé un bouquin en me disant « Mais ça, c'est un collector, c'est un bouquin que j'ai sorti en 2011 et que j'ai actualisé et qui dit carrément « Désobéissons à l'Union européenne ». Le bouquin de Coralie, c'est « Europe, les étapes des unis » et celui-là, c'est « Désobéissons à l'Union européenne ». Pourquoi ce titre provoquant et ce mot d'ordre, Aurélien ?
Moi, je fais le même constat que Coralie sur ce carcan européen qui aujourd'hui est un carcan juridique et un carcan monétaire. Bon, moi je suis profondément de gauche, même de la gauche radicale. Et le problème qui se pose, c'est que si la gauche radicale arrivait au pouvoir demain, l'intégralité de son programme politique serait inapplicable au regard du droit européen. Parce qu'il serait en contradiction avec le traité, avec les directives, avec les règlements. Par exemple, si on voulait taxer les mouvements de capitaux pour les prélever et pour répartir les richesses, c'est incompatible avec le droit européen. Si on veut développer les services publics sérieusement, c'est incompatible avec le droit européen, etc. Et on peut prendre toutes les propositions à peut-être 90%, elles sont incompatibles. Donc, soit la gauche renonce à changer les choses, soit elle accepte de désobéir à l'Union européenne, c'est-à-dire finalement de sortir de l'ordre juridique et monétaire européen.
C'est-à-dire c'est la résignation ou bien la désobéissance.
Exactement.
Cela dit, moi je suis de la gauche radicale et tout ça, nous dit Aurélien Bernier, là j'ai la couverture de l'hebdomadaire Marianne, qui n'est pas un journal vraiment de gauche radicale, et qui dit l'euroscepticisme explose, comment ils nous font détester l'Europe, etc. Vous avez l'air à la mode là tous les deux, non ?
Oui, bon, Marianne a toujours été un peu sur cette ligne-là. Hein. Ils ont fait auparavant un dossier sur la sortie de l'euro. Ils ont été l'un des journaux à faire un dossier étayé sur le traité transatlantique. Donc, ils ont quand même toujours été un peu sur cette ligne-là.
Oui, mais le Figaro vous a ouvert ses colonnes, par exemple.
Oui, alors le Figaro m'a ouvert ses colonnes. Alors, j'ai été un peu surprise de ça. À deux reprises, d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un effort de pluralisme qui tient peut-être au traumatisme de mai 2005, où finalement toute la presse avait été très très unanime en faveur du oui, oui au traité constitutionnel européen, et où finalement il a bien fallu constater que la population, elle, était très majoritairement, franchement majoritairement en faveur du non.
On parle de la France ou on parle de l'Europe, là ?
Ah là, je parle de la France.
C'est ça. Parce que quand même, il y a une Europe. Alors, les Européens étaient aussi sceptiques que ça ?
En 2005, les Pays-Bas ont voté non. Oui. Et ils ont subi le même sort que nous. C'est-à-dire que nous, on a réinfligé ce traité en 2008, oui, qui s'est appelé traité de Lisbonne, mais c'est le même texte. Oui. Les parlementaires l'ont voté, ou pour un certain nombre de parlementaires de gauche, ont décidé de s'abstenir, permettant ainsi au traité de passer. Et aux Pays-Bas, c'est la même chose. Ils ont voté non. On leur a refourgué Lisbonne 3 ans après, ouais, par vote parlementaire.
Serge Halimi, dans son éditorial de ce mois-ci, dans Le Monde diplomatique, dit l'Europe, la machine à punir, quoi. Et c'est vrai que, pour beaucoup, quoi, c'est Europe égale chômage, en gros.
Il y a aussi ce problème démocratique, où quand un référendum, le résultat d'un référendum déplaît, on fait revoter le Parlement, qui va jusqu'à invalider. C'est-à-dire que les députés acceptent d'invalider le choix de ceux qui les ont mandatés. C'est quand même grave sur le plan démocratique.
Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante,
le général de Gaulle,
si elle ne comporte pas la France avec ses Français.
ORTF, 15 mai 1962.
L'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe, dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides. Alors, il est vrai que la patrie est un élément humain, sentimental, et que c'est sur des éléments d'action, d'autorité, de responsabilité qu'on peut construire l'Europe. Quels éléments ? Eh bien, les États, car il n'y a que les États qui, à cet égard, soient valables, soient légitimes et en outre soient capables de réaliser. J'ai déjà dit, je répète, qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États, en dehors naturellement des mythes, des fictions, des parades.
Alors moi, ce qui m'intéresse, je vous ai demandé de venir tous les deux, c'est pour un peu nous expliquer comment on en est arrivé là, quoi. Comment est-ce que ça s'est installé, cette Europe ? On va célébrer la libération, le débarquement dans les jours prochains. On commémore l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Enfin, on est dans une période d'histoire et de mémoire et donc de réflexion. Et il y a un lien entre ce que j'évoque là et l'Europe, qui était présentée comme le remède et la solution à ce que vous appelez le tunnel, un tunnel de guerriers, hein, c'est ça, Coralie ?
Oui.
Qui va de 1914 à 1945. Bien, expliquez-nous en gros, et d'une manière plutôt politique que technique, j'espère, comment on en est arrivé là ? Qui veut commencer ?
Moi, je veux bien commencer. En fait, la construction européenne qui se fait à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale repose sur deux choses. La reconstruction du capitalisme au niveau européen avec une alliance avec le capitalisme américain et l'anticommunisme. Alors, il faut bien voir que, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, le patronat américain, a une stratégie qui est d'essayer d'imposer le libre-échange comme ordre commercial international. Pourquoi ? Parce que les États-Unis doivent reconvertir leur économie de guerre dans la production civile, hein, quand vous fabriquez...
Ils l'avaient déjà fait en 1918.
Voilà, avec difficulté. Et les États-Unis craignent que le marché national, même en développant la consommation de masse, ne soit pas suffisant. Et donc, ils cherchent à exporter leur production. Et donc, ils tablent sur un principe qui est le libre-échange, c'est-à-dire de permettre aux marchandises et aux capitaux de circuler sans entrave. Le patronat européen, lui... est très affaibli. On a eu en France la collaboration d'un certain nombre de grands patrons. On a le Conseil national de la résistance.
Et de grands patrons américains aussi qui ont collaboré.
Tout à fait.
Faut-il évoquer rapidement la figure d'Henry Ford ?
Tout à fait. Et on a le grand patronat européen doit lutter contre, en France, le Conseil national de la résistance. Au Royaume-Uni également, des travaillistes britanniques qui mettent en place un programme social très très avancé. Et dans cette lutte, avec également en toile de fond la lutte contre le communisme, contre les idées communistes, le patronat européen comprend qu'il doit s'allier avec le patronat américain, accepter, développer le libre-échange. Et de là découle l'idée de faire un marché commun, et un marché commun qui soit ouvert, évidemment, sur l'Atlantique. Mmh. Et en fait, il y a une stratégie derrière tout ça qui est mise en place. C'est une stratégie de lobbying pour promouvoir...
On est quelle date, là, en gros ?
Alors, on est à la fin des années 40. Entre 1946 et 1950. Et on a toute une phase là, de lobbying pour promouvoir l'idée d'une construction européenne, mais qui est une construction d'abord économique. Et en fait, la stratégie qui est adoptée, c'est une alliance entre les conservateurs européens, notamment les chrétiens démocrates, hein, que ce soit en Allemagne, en France ou en Italie, et la gauche non communiste, en développant un discours tout à fait anticommuniste. Churchill, quand il dit qu'il faut construire les États-Unis d'Europe, c'est pour protéger, notamment pour protéger l'Europe du danger communiste. Et les États-Unis financent les mouvements qu'on peut dire pro-européens, conservateurs, mais aussi de gauche. Parce que y a intérêt à promouvoir cette idée dans la gauche non communiste que l'avenir passe par la construction européenne. Et d'ailleurs, vous avez un délégué d'un mouvement qui est créé en 1948, qui s'appelle le Mouvement européen, et qui rassemble différentes sensibilités politiques, des chrétiens démocrates, des socialistes. Vous avez un délégué socialiste qui va prononcer cette phrase absolument sensationnelle. Il dit « Moi, socialiste, j'aimerais mieux une Europe libérale que pas d'Europe du tout ». Donc ça montre bien que l'idée de construire l'Europe, quelle que soit la finalité libérale ou socialiste de l'Europe, passe avant toute autre considération, notamment parce qu'il y a la crainte du communisme. Et chez les socialistes qu'on retrouve dans ces mouvements pro-européens, on a des gens qui sont tout à fait aussi anticommunistes que dans les milieux conservateurs.
Coralie Delhomme, d'accord avec cette analyse, cette vision d'Aurélien Bernier.
Le souhait des Américains de reconvertir effectivement leur industrie de guerre. Oui, ça a été notamment l'objet du plan Marshall. Il leur fallait bien trouver des débouchés. Ils avaient une production florissante à ce moment-là. Et puis il y a eu aussi...
Parce que le plan Marshall est considéré comme un miracle pour nous autres Européens. Vous en faites une nécessité économique américaine.
Il y avait aussi... Les choses sont grises en général, elles ne sont jamais blanches et noires. Il leur fallait, comme toutes les nations du monde, ils étaient dans une optique de défendre leur intérêt national aussi.
Oui.
Donc ils avaient cet objectif d'écouler leur production en Europe. Et ils avaient aussi un autre objectif qui était justement, dans le cadre de la guerre froide et de la lutte contre le communisme, d'arrimer absolument l'Allemagne de l'Ouest à l'Europe. Voilà, donc il fallait la remettre en selle, il fallait remettre ce pays en selle et le normaliser de manière à ce qu'il soit vraiment arrimé à l'Europe de l'Ouest, sachant que l'Allemagne de l'Est, elle, était arrimée à l'autre bloc. C'est pour ça que beaucoup d'européistes ont l'habitude de réciter ce mantra « l'Europe, c'est la paix ». L'Europe, c'est la conséquence ou la cause de la paix ? On ne sait pas trop au bout du compte, parce que qu'est-ce qui a généré la paix aussi ? C'est la guerre froide. Chacun des deux blocs a souhaité à un moment que la stabilité règne dans son aire de jeu. La guerre froide est pour beaucoup dans la pérennisation de la paix. Après, il y a eu la bombe atomique.
Monsieur Churchill, parlant aux foules d'Europe, par-dessus les foules de Strasbourg, devait leur dire...
Prenez garde. Je vais parler français. Ce n'est pas contre une race. Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, que nous nous dressons résolument.
L'Europe devient une réalité.
Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum?
Warum? Oui, d'accord, ich frag mich, warum? Ich bin allein. Mais c'est une des rares chansons que nous connaissons, et encore il faut avoir de la bouteille, en allemand. Donc l'Europe, mais l'Europe de quoi au juste, effectivement ? En tous les cas, pas l'Europe de la chanson. Combien connaissez-vous de chansons en allemand, par exemple ? En italien, oui, en espagnol un peu plus, et puis ça s'arrête là, quoi. Tout le reste, c'est l'Atlantique, effectivement. Et oui, et c'est l'Amérique, c'est la Grande-Bretagne, qui a longtemps été le caniche américain, et sur le plan culturel, en tous les cas, l'Europe ne s'est toujours pas faite. On attend cette Europe-là, l'Europe culturelle, l'Europe de la culture, l'Europe des peuples, c'est toujours pas fait. Et l'Europe a une sale tête en ce moment. Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'il faut en sortir ? Il faut sortir de l'eau ? Toutes ces questions sont agitées, mais mollement agitées. On fait une émission qui, je suppose, n'intéresse pas grand monde, mais enfin, on s'entête quand même. Avec Coralie Delhomme. qui publie « Europe, les États des Unis » chez Michalon et Aurélien Bernier, désobéissant à l'Union européenne. But, warum ? Oui, une autre Europe est possible. On en vienne à la couverture de Marianne qui dit « Oui, une autre Europe est possible ». Qu'est-ce que vous dites, vous ? Est-ce qu'une autre Europe est possible ? Est-ce qu'il faut revenir à la situation précédente, sortir de l'euro, installer du protectionnisme ?
C'est très Coralie. Difficile parce que c'est très difficile parce que plus on s'enfonce dans les méandres de cette Europe-là, plus les populations se désespèrent et se désunissent. Parce que quand on voit par exemple que Madame Merkel va en Grèce et qu'elle est accueillie par des pancartes qui la griment en Hitler, c'est pas très l'amitié entre les peuples, on a quand même pris un coup.
Oui. Hein.
Donc plus on s'enfonce là-dedans et plus l'autre Europe entre guillemets sera difficile à construire. Mais il y avait des alternatives. Il s'est passé des choses intéressantes en matière coopérative qui n'avaient rien à voir avec l'Union européenne, comme par exemple la manière dont on a créé Airbus, qui était de la coopération interétatique entre pays souverains en petit nombre. On aurait pu aussi faire une Europe de la culture.
Mais ça, on n'avait pas besoin de la construction européenne pour faire Airbus.
On n'avait pas besoin.
Très bien
on n'avait pas besoin d'une Union
entre
28.
Des pays souverains
mais c'est ce qui a été
qui
fait.
Ont des accords économiques ou culturels ou de toutes sortes, comme ça existe depuis quelques siècles.
En mode intergouvernemental, mais moi je suis très favorable à une Europe intergouvernementale. Hein.
Oui. Aurélien, revenir aux frontières, sortir de l'euro et...
Finalement, la question, c'est on a un édifice qui se fissure de partout et qui menace de nous tomber sur la tête. La question, c'est de savoir s'il vaut mieux l'abattre pour reconstruire quelque chose d'autre ou s'il vaut mieux faire des travaux de rénovation, c'est-à-dire mettre des étais, refaire les plâtres, refaire du ciment et refaire les peintures. Moi, je pense qu'il vaut mieux l'abattre et reconstruire. Mmh. Pourquoi ? Parce que cette construction européenne s'est faite sur des fondamentaux ultralibéraux et qu'on a construit cet ordre juridique et monétaire de façon à ce que les États ne puissent pas s'y soustraire. Et je crois qu'il faut véritablement insister là-dessus. Quand la construction européenne a patiné dans les années 60, quand De Gaulle s'est opposé au transfert de souveraineté nationale, qu'a fait la Commission ? Elle a favorisé la création d'un droit européen qui s'impose aux États. Ça s'est fait dans un déni complet de démocratie. Il y a eu quelques discussions entre juristes, quasiment personne n'en a parlé. Mais dans les années 60, il se crée un droit européen autonome et la Commission fait tout pour que ce droit prime sur les droits nationaux.
La Cour de justice, c'est un arrêt de la Cour de justice.
Oui, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la Commission européenne a préparé le terrain et a influencé cet arrêt de la Cour de justice. Et avant l'arrêt, elle considérait déjà que les rendus de la Cour de justice devaient consacrer le droit européen. Il y a un travail de lobbying tout à fait passionnant qui se passe dans ces années-là. Et au moment même où la construction politique patine. Donc voilà, on prend un biais, hein, comme quand le peuple vote non, eh bien on reprend un traité et on passe par derrière. Eh bien là, il y avait des problèmes politiques, on est passé par le juridique. Et ce qui s'est produit en 1992, c'est qu'on a inscrit dans la Constitution française le droit européen pour éviter qu'il y ait des problèmes d'incompatibilité entre le droit national et le droit communautaire. Ce qui veut dire que ce droit européen surplombe le droit national et que donc soit on le sort de la Constitution française pour dire eh bien on remet le droit national au-dessus et à ce moment-là on peut prendre des lois, on peut changer les choses, soit on reste inféodé au droit européen. Et
avec voilà. Un déficit démocratique considérable.
C'est pas un déficit, c'est un scandale démocratique. Enfin, c'est absolument scandaleux que la Commission européenne puisse rédiger des propositions qui, évidemment, ensuite vont être adoptées par les États qui sont aussi coupables, hein. Il faut évidemment le dire, mais que tout ça soit déconnecté des parlements nationaux et que les citoyens n'aient pas leur mot à dire. Et puis maintenant, on a cet ordre monétaire avec la monnaie unique qui impose une politique monétaire unique à tous les États et qui est une politique ultralibérale. Donc moi, je pense qu'il faut casser ce système par un geste unilatéral, c'est-à-dire que un gouvernement de gauche élu au niveau national, eh bien, dénonce tout ça, restaure la primauté du droit national et les monnaies nationales. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne toute idée de coopération avec les autres États, bien au contraire, parce que, évidemment, les mouvements sociaux dans les autres pays européens qui verraient un État mener des politiques de gauche sans tenir compte des injonctions de l'Union européenne, eh bien, se servirait de cet exemple pour revendiquer la même chose en Espagne, en Grèce, en Allemagne, que ce que la gauche radicale, par exemple, pourrait faire en France. Mmh. Et donc, on aurait un effet boule de neige et on pourrait imaginer reconstruire, mais dans un second temps, d'autres coopérations entre États, et là, je suis d'accord, basées sur le respect des souverainetés nationales et populaires.
C'était le rêve de Bourdieu en 1995, quand il militait pour un grand syndicat ou des grands syndicats européens. Ça s'est absolument pas fait, ça s'est pas construit, ces grands syndicats européens. Coralie ?
Simplement, au sujet de la sortie de l'euro, beaucoup de gens mettent en garde sur ce qui se passerait si la France sortait unilatéralement de l'euro, elle se trouverait isolée, etc., etc. Il faut quand même bien voir que si la France quitte l'euro, il n'y a plus d'euro. La France a pour une grande partie créé l'euro, c'était une idée mitterrandienne. C'est une idée qu'il a proposée aux Allemands dans le but, au moment de la réunification allemande, de canaliser la montée en puissance de l'Allemagne, qui forcément allait devenir bien plus grosse, plus peuplée, plus centrale. Son idée, c'était de retirer à l'Allemagne le Deutschmark pour l'arrimer à toute force à l'Europe et pour qu'elle ne devienne pas surpuissante. Voilà. Et d'ailleurs, il existe un petit bouquin qui s'appelle « Le bêtisier de Maastricht » qui recense un certain nombre de propos qui ont été tenus par des responsables politiques de l'époque, que ce soit Michel Rocard, Elisabeth Guigou, qui défendaient absolument Maastricht et plus tard la création de l'euro. Mais en vérité, ces gens-là étaient terrorisés par la réunification allemande.
Oui, c'est tout le long, là, vous évoquez Maastricht, on sait que c'est passé, mais de très peu, Maastricht en 92. On a évoqué 2005 le non, vraiment clair et net, face au traité de constitution. Dimanche, on va voter, mais on va surtout pas voter. L'abstention va être considérable. Ce qu'on voit tout le long, c'est qu'il y a des analyses comme les vôtres qui aident des chercheurs spécialisés dans ces domaines. Mais le commun des mortels en 2005 voyait l'Europe, j'y reviens, comme le lien entre l'Europe et puis le chômage, et puis le pouvoir d'achat, et puis l'austérité, et puis les punitions permanentes. C'est tout simplement ça qui va faire que dimanche, la moitié des Français vont pas sortir de chez eux.
C'est un peu le paradoxe, et finalement j'ai envie de dire bravo, parce qu'il fallait quand même le faire. On est passé de l'Europe c'est la paix à l'Europe c'est le chômage. Il y a tout un mythe dans les élites européistes qui est de dire l'Europe c'est la paix, mais dans la population, c'est pas du tout ça. L'Europe c'est la pauvreté. Donc il y a bien une distorsion entre la manière dont un certain nombre de personnes de l'élite... Il y a un type qui a écrit, qui s'appelle Marc Joly, qui a parlé du mythe Jean Monnet, qui expliquait que les gens qui sont attachés au discours de Robert Schuman, à la figure de Jean Monnet, à la figure des pères fondateurs, sont vraiment des gens qui appartiennent à l'élite. Il appelle ça un mythe élitaire. En revanche, pour la population, Jean Monnet, on ne sait pas trop qui c'est, ce serait peut-être un peintre luxembourgeois, enfin voilà. Vraiment une façon très différente de se représenter les choses. Et aujourd'hui, c'est clair, entre les adorateurs du discours de Robert Schuman, les fanas de l'Europe, c'est la paix, et les gens qui considèrent au contraire que l'Europe les a appauvris et mis en danger, il y a une planète.
Aurélien, pour finir.
Enfin, d'ailleurs, il y a un travail absolument sensationnel de réécriture de l'histoire et des personnages de Schuman et Monnet pour les présenter comme des hommes de paix qui avaient tout compris l'intérêt de l'amitié entre les peuples. Bon, en fait, Monnet est un financier. Hein,
oui, il était banquier aux États-Unis.
Il a été banquier, il travaillait à Wall Street, il était au cœur de la finance internationale, il était en lien avec les grandes multinationales. Schuman était un type de droite viscéralement anticommuniste, et qui était également très lié au milieu industriel. Et ces gens-là ont d'abord fait l'Europe à l'image de ce que souhaitaient les grandes puissances économiques et financières. Et on les a repeints après coup comme des hommes de paix et des hommes qui voulaient cette amitié entre les peuples. C'est absolument pas le cas. L'objectif au départ, c'était de s'opposer au communisme et de supprimer des initiatives comme le Conseil national de la résistance ou les programmes sociaux au Royaume-Uni. Donc on a une véritable imposture au sens propre du terme, c'est-à-dire se faire passer pour ce qu'on n'est pas, eh bien on essaye de faire passer des gens comme Schuman et Monet pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des bienfaiteurs de l'humanité.
Union pour un mouvement populaire.
Le 25 mai prochain, vous allez élire vos représentants au Parlement européen. Ces élections sont un rendez-vous majeur pour notre pays. À l'UMP, grand parti de droite et de centre-droit, nous sommes profondément européens. C'est même le cœur de notre histoire. Nous sommes parfaitement réalistes sur l'Europe que nous voulons. Cette Europe, c'est une Europe des résultats. Une Europe de l'efficacité au service des Françaises et des Français.
Nous avons besoin, pour nous protéger et pour défendre nos intérêts et nos valeurs, d'une Europe forte, solide, écoutée. La France a un rôle à jouer. Nous, nous voulons avoir une politique diplomatique et une défense européenne réelle et digne de ce nom.
Dimanche 25 mai, un seul jour, un seul tour, un seul vote. Dites non à François Hollande. Pour la France, agissez en Europe, votez pour les candidats de l'UMP.
C'était Union pour un mouvement populaire avec Jean-François Copé et Michel Alliot-Marie.
Voilà vos réactions, Coralie,
Aurélien. L'Europe de l'efficacité et des résultats.
Ça vous donne envie d'aller voter dimanche?
On dirait qu'ils nous proposent de manager une entreprise. C'est affreux.
En matière de diplomatie internationale, Madame Alliot-Marie, elle en connaît un rayon.
Quand on écoute le spot, là, il suffirait de changer la phrase sur François Hollande, qui évidemment est marquée UMP. Le message pourrait très bien être le même du côté du Parti Socialiste. C'est-à-dire que les mêmes niaiseries européistes sont débitées et par l'UMP et par le Parti Socialiste. Et si vous écoutez bien le spot, il n'y a absolument aucun argument dedans. On est simplement sur cette idée que voilà, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est un espace qui va peser au niveau diplomatique, et on est dans l'incantation. Mais les socialistes font exactement la même chose.
Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on nous dans un spot pour une élection européenne, on nous dit voter contre François Hollande. Il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal. Je croyais qu'on était là pour choisir les représentants de l'Europe de demain.
Moi, je n'ai pas d'avis. L'équipe de la Basse-Illustrie n'a aucun avis. C'est vous qui avez des avis, ça vous regarde. Nous, on obéit au CSA et on doit faire entendre aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, nombreux, un peu tout. Chacun doit pouvoir s'exprimer. La preuve.
Parti Socialiste.
L'Europe, depuis son origine, porte en elle deux promesses.
Elle a rempli sa première promesse en instaurant la paix, la démocratie, l'état de droit.
Aujourd'hui, l'Europe est à un tournant de son histoire et ses peuples l'exhortent à tenir sa deuxième promesse.
Celle d'une Europe de protection, d'une Europe sociale, d'une Europe de croissance et de prospérité et d'emploi.
Depuis trop longtemps, l'Europe est gouvernée par les conservateurs et par les libéraux.
Aujourd'hui, par notre vote, nous avons le pouvoir d'imposer une nouvelle direction pour une nouvelle croissance.
Industrie d'avenir, économie numérique, économie verte, transport propre, agriculture raisonnée, transition énergétique doivent être au cœur de nos politiques. Ce sont les emplois de demain en Hexagone comme en Outre-mer.
Pour la première fois, nous avons le pouvoir de choisir le président de la Commission européenne, de choisir l'Europe que nous voulons.
Pour nous tous Européens, je m'engage pour une Europe plus sociale. Une Europe qui protège, une Europe moderne. Ne nous tromperons pas de colère. Il faut réorienter l'Europe. Et moi, je compte sur vous.
Le 25 mai, par notre vote, imposons une nouvelle croissance.
Le 25 mai, un seul jour, un seul tour.
C'était Parti Socialiste avec Philippe Leconstant, Gilles Pargneau, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Jean-Paul Denano, Virginie Rosière, Édouard Martin, Vincent Payon et Martine Schulz.
Voilà, Aurélien, Coralie, que des jeunes comme vous, hein, c'est que la nouvelle génération. Alors là, réorienter, ça vous plaît ça, de réorienter vers la croissance? Si j'ai compris, ce qui m'est resté, c'est ces trois mots-là, réorienter vers la croissance.
En fait, on a le discours qu'a toujours servi le Parti Socialiste sur les questions européennes, c'est ce discours de l'Europe sociale et de la réorientation. Et que finalement, la construction européenne est libérale parce que les libéraux sont majoritaires, mais que si on avait une majorité socialiste, elle serait différente. Bon, en fait, c'est une supercherie. On a eu une époque dans les années 90 où la plupart...
J'espère que le spot suivant va vous combler, parce que pour l'instant, on n'a pas de chance.
Hein, désolé, mais on a eu une époque à la fin des années 90 où les principaux gouvernements des États étaient socialistes. Donc vous aviez la France, bien sûr, avec Lionel Jospin. Vous aviez le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie. Et où les politiques européennes ont été tout aussi libérales que maintenant, et cette promesse d'Europe sociale est finalement le seul argument qui permet encore aux socialistes d'essayer de justifier cette construction européenne qui, encore une fois, ne peut pas être sociale au regard des traités, au regard des centaines de directives, avec les directives de libéralisation des services publics, de dérégulation, etc.
C'est certain que dès lors qu'on a inscrit dans les traités que l'un des principes fondamentaux est la concurrence libre et non faussée, la libre circulation des capitaux, la libre circulation des marchandises, que l'État ne peut s'endetter qu'auprès des marchés de capitaux, comment voulez-vous réorienter quoi que ce soit?
Peut-être faire un petit peu de social quand même, qu'on rallie un petit peu de social.
Non, elle est structurellement, cette Europe est structurellement de droite, c'est pas conjoncturel, c'est pas Martin Schulz à la Commission qui va changer ça, elle est de droite dans les traités.
Front National.
Mes chers compatriotes, en 1979 déjà, il y a 35 ans, et à toutes les élections depuis, l'UMPS nous chante l'avènement prochain d'une Europe plus juste, plus protectrice. À chaque fois, c'est le même refrain. On nous avoue que l'Europe ne marche pas bien. Si vous votez pour l'UMP ou le PS, demain, ça ira mieux. On ose encore nous parler aujourd'hui de l'Europe sociale. Mais de qui se moque-t-on? L'Union européenne, vous l'avez compris, c'est au contraire l'assurance de toujours plus d'austérité et de chômage, toujours plus de coupes aveugles dans les dépenses utiles et toujours plus de largesse aux multinationales et aux banques. L'Europe de Bruxelles, d'abord en Grèce, au Portugal, en Italie et de plus en plus en France, sait faire payer les peuples pour sauver un système. La zone euro, depuis qu'elle existe, est le trou noir de la croissance mondiale. Ce n'est pas parce que nous sommes plus bêtes ou plus fainéants que les autres. C'est parce que l'UMPS a signé des traités et voté des directives qui empêchent le protectionnisme, le patriotisme économique et une politique monétaire adaptée. Je sais que beaucoup taisent leurs difficultés par fierté. Mais le 25 mai, si vous voulez envoyer un signal fort, vous devez voter. Bruxelles et l'UMPS n'attendent que votre abstention et donc votre silence. Si tous ceux qui souffrent de l'Union européenne se déplacent le 25 mai pour voter Front National, alors nous arriverons en tête. Il est parfois plus simple qu'on ne le croit de se faire respecter.
C'était Front National avec Marine Le Pen.
Bon, bah vous applaudissez. Coralie, Aurélien, Coralie Delhomme, Aurélien Bernier, vous êtes... Tout ce que vous venez de raconter là, vous êtes en accord parfait avec Marine Le Pen.
Elle est habile. Elle est très habile. Le problème, c'est que c'est assez paradoxal, parce qu'elle passe son temps à dénoncer l'Europe, et tout ce qu'elle souhaite, c'est d'aller au Parlement européen pour y constituer un groupe qu'elle est en train de monter, notamment avec l'extrême droite néerlandaise, autrichienne, etc. Et la présence de ce groupe va probablement contraindre le PSE et le PPE à s'allier plus qu'ils ne l'ont jamais été. Donc on est dans l'espèce de pérennisation de cette grande coalition au sein du Parlement européen entre les socialistes et la droite, qui laisse prévoir très peu de changements finalement.
Aurélien ?
Ouais, enfin, c'est absolument consternant. On en a presque des frissons quand on écoute cette intervention.
C'est glaçant.
Ouais.
Enfin, pour les gens de gauche que vous êtes.
Pour les gens comme moi, parce que vous avez deux ou trois mots à changer. pour que ce soit un discours de gauche radicale. Mm-hmm. C'est-à-dire toute la partie constat sur les...
C'est une vieille coutume pour l'extrême droite de détrousser les idées de la gauche critique.
Mais là, ça n'a jamais été fait, je pense, par le Front National depuis qu'il est créé, de façon aussi habile, de façon aussi perverse, en mélangeant ce discours historique sur la préférence nationale avec des considérations sociales. Donc, c'est pas étonnant que ce discours attire des électeurs, et notamment les gens qui sont les plus touchés par la mondialisation, parce que ce discours-là aurait pu quasiment, mot pour mot, être tenu par le Parti communiste dans les années 70. Mmh. Voilà, quand il disait le fond de sa pensée, c'est-à-dire que cette construction européenne était insupportable et que pour mener des politiques sociales, il fallait s'en affranchir.
Ce discours fait un carton, ça marche, ça réussit, et personne ne se demande pourquoi ça réussit. Pourquoi est-ce qu'on lui laisse le champ libre au Front National? C'est incroyable. On dirait que les autres partis sont dans un état de sidération, comme un animal qui se trouve pris dans les phares d'une voiture. Quoi. Ils savent plus quoi faire, et on lui laisse le champ libre, complètement.
Oui, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, quand le Front National reprend maintenant la figure de Jaurès, quand il cite Serge Halimi, puisque Marine Le Pen cite Serge Halimi, quand il pique des analyses d'attaque, la gauche est tétanisée. Et comme la gauche radicale a abandonné pendant des années au Front National ce terrain, aujourd'hui, quand la gauche radicale dit qu'il faut rompre avec la construction européenne, évidemment, tous les libéraux, les médias dominants, disent vous voyez, vous dites la même chose que le Front National. Et là, on accuse la gauche radicale, Mélenchon, de populisme, on dessine Mélenchon à côté de Marine Le Pen
argument.
Dans le monde. Voilà. Et donc, on a abandonné ce terrain, et il va falloir du temps pour arriver à reconstruire et à montrer qu'il y a un projet à la gauche radicale, qui est à l'opposé du projet du Front National. Le projet du Front National, c'est de relancer le capitalisme français dans la compétition internationale. Et ça, Marine Le Pen est très claire là-dessus. Le projet de la gauche radicale, ça doit être de sortir de cette logique de la concurrence, soi-disant libre et non faussée, pour faire tout autre chose. C'est-à-dire de la coopération entre États qui ont recouvert leur souveraineté nationale.
Merci, on vous retrouve tous les deux. Coralie Delhomme, le bouquin sort chez Michalon, Europe, les États des Unis, et on vous retrouve sur votre blog La Reine Nue. Mais on vous voit tout habillé.
Je suis complètement habillé.
Voilà, il ne faut quand même pas... c'est une incitation pour finir. Et puis Aurélien Bernier, Désobéissons à l'Union Européenne. Ça aussi, c'est sur un blog.
Alors oui, parce que le livre papier est épuisé, mais c'est en ligne sur mon blog, en lecture libre et gratuite.
Merci à tous les deux.
Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire.
Des lapins immobiles dans la lumière des phares, hein ? Voilà à quoi ressemblent pas mal d'entre vous. Attention, si vous avez bien observé ce que font les lapins dans la lumière des phares, ils se débinent, vous avez remarqué ça ? Ils restent, ils ne bougent pas, toc, ils se sauvent. Et parfois, ils se sauvent sous les roues de la voiture. Ça, c'est assez terrible, faites très très attention. Petit lapin, merci à toutes et à tous. C'était Europe, le mépris des peuples, un entretien avec Coralie Delhomme et Aurélien Bernier. Leurs deux bouquins, on en a parlé, Europe, les États des Unis, Coralie Delhomme, Michalon, La Reine Nue, le blog de Coralie Delhomme, Désobéissant à l'Union Européenne, livre d'Aurélien Bernier, et un autre bouquin, La Gauche Radicale et ses tabous, du même auteur, aux éditions du Seuil. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, sur le site là-bas.org. Vous pouvez réécouter cette émission et puis faites un tour sur la page Facebook de l'émission La Technique aujourd'hui. Julien Chabassu et Enzo Labori. L'émission a été réalisée par Antoine Chao et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur 20h, de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Je vous le disais hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. On prépare des émissions et des sujets sur la Première Guerre mondiale. Ça nous passionne, ça nous intéresse. Si vous avez des choses à nous dire là-dessus, des témoignages, des idées, il nous semble que c'est redevenu, curieusement, étrangement, mais c'est bien présent, un enjeu, non pas seulement un enjeu de mémoire, mais carrément un enjeu politique que cette commémoration autour de l'héroïsme ou bien de soldats qui n'ont été que de l'engrais dans les sillons de la France, pour reprendre une expression de Céline. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Dans l'immédiat, c'est Hervé Pochon que vous retrouvez avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?
Alors là, je suis en train de couper de la laine sur le dos d'une brebis qui était en train de la perdre naturellement. Donc là, on va faire une transhumance aujourd'hui. Alors, on lui fait belle.
Bonjour à tous et bienvenue dans le parc de l'île Saint-Denis. Et votre prénom ?
Valentin.
Alors, vous êtes berger ?
Oui, berger à mi-temps, on va dire. Berger bénévole pour l'instant. Mais on est en train d'en faire notre métier. On est 5 à s'organiser pour que ça devienne notre métier.
Vos moutons, vous les faites paître où, en région parisienne ?
Alors, on a ce troupeau-là qui est le troupeau collectif. Il est installé en ce moment à la fac de Villetaneuse. Donc là, on a une gestion collective également. Il y a différents propriétaires. Et donc chaque propriétaire doit donner 2 heures de son temps par semaine par mouton. Donc c'est aussi simple que ça, mais ça permet finalement de partager la tâche et d'avoir un élevage qui soit partagé comme ça.
Et vous avez combien de moutons en tout ?
Alors en tout, avec l'autre troupeau, qui est à Houille, on a une 50aine de brebis.
Et vous espérez vivre de ça ?
Vous pouvez en vivre, mais il faut le combiner, enfin il faut trouver plusieurs sources de rentabilité à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement faire de l'entretien des espaces verts ou de l'aménagement, il faut aussi qu'on ait derrière une vraie production finalement agricole, donc valoriser la viande, le lait, la laine. La laine c'est plus dur, mais on peut essayer.
Et vous faites quoi pour gagner votre vie alors ?
On propose nos services à ceux qui sont intéressés, au parc, aux mairies, avec le troupeau. Donc pour l'instant, ça c'est ce qui est en train de se mettre en place avec Berger Urbain, qui est un collectif qui est une émanation de l'association qu'on a depuis 2 ans. Puis sinon, moi je suis épicier. Je vends des produits corses à Paris, rue du Faubourg Saint-Denis.
Ah, d'accord.
Si vous voulez passer me voir.
Ça s'appelle comment votre boutique ?
Terra Corsa.
Ouais, je vous laisse couper, je vous laisse tondre le mouton.
Julie, elle a plein de choses à dire.
Et alors vous faites quoi, Julie ?
Eh ben, moi, j'assiste Valentin dans la tonte du mouton. Après, on va les relâcher dans le petit parc et on va attendre les marcheurs qui arrivent de Gennevilliers.
Qu'est-ce que vous allez faire avec eux ?
Ben, on va faire un petit bout de chemin ensemble. On va suivre avec les moutons le parcours de la Grande Marche. Ils vont voir que le mouton en ville, ça se déplace très très bien, et surtout à pied.
Vous conseillez aux gens qui habitent en ville d'avoir un mouton plutôt que d'avoir un chien ?
Alors, déjà, un mouton, c'est beaucoup moins embêtant qu'un chien. Déjà, au niveau de la nourriture, ça coûte beaucoup moins cher.
Ah.
Et puis, si on se met... Alors, un mouton tout seul, il est assez triste. Par contre, si on se met à plusieurs à gérer un troupeau, c'est ce qu'on essaye de faire ici avec le troupeau collectif, on a 2 heures par semaine de travail, enfin au moins, si on est de plus en plus nombreux, quoi.
Vous êtes bergère, Julie ?
Eh ben, je suis comme Valentin, je suis bergère bénévole pour le moment, dans l'association Clinamen.
Et vous faites quoi pour gagner votre vie ?
Eh bien, je suis chef de chantier dans le BTP, avec une formation d'architecte.
Et Clinamen, ça veut dire quoi ?
Clinamen, c'est une notion philosophique qui a été décrite en premier dans le livre de Lucrèce qui s'appelle De Natura, de la nature, des choses en fait. Et il parlait de l'atome. C'est lui qui a commencé à dire, si on dissèque une chose qu'on voit de plus en plus petit jusqu'à qu'on arrive à la plus petite particule qu'on n'arrive plus à couper, donc il avait fait une sorte de définition de l'atome alors qu'il n'avait pas de microscope, eh bien c'est l'atome, et l'atome, comment ça se comporte? Eh bien ça se comporte en pluie. Alors lui, imaginez que c'était une pluie de petits atomes parallèles qui tombaient de manière parallèle. Donc elles ne se rencontraient pas, logiquement. Sauf qu'il y avait un petit angle, une petite déclinaison, c'est la traduction de Kleinamen, la petite déclinaison qui faisait qu'à un moment donné, les atomes s'entrechoquent, se mélangent et créent la matière vivante.
Et ça, c'est l'image du troupeau?
Non, c'est l'image de ce que le troupeau provoque. Cette petite déclinaison qui fait que les gens se rencontrent et qui crée des histoires.
Le but de ce troupeau, c'est que les gens se parlent et ça crée des histoires.
C'est ce qu'on appelle l'effet de l'animal médium.
Oh, mais vous avez... Bonjour, qu'est-ce que vous avez sur le ventre, vous?
J'ai un bébé agneau.
Eh ben, dis donc, il vous tête presque.
Presque.
c'est sa nouvelle mère.
Ça vous tient chaud?
Ah bah, c'est surtout moi qui lui tiens chaud, là.
Ah oui.
C'est parce qu'en fait, sa mère, elle a pas de lait. Elle a pas eu de montée de lait. Et du coup, il serait mort de faim si je l'avais laissé dans le pré.
Alors, vous aussi, vous êtes bergère?
Ouais.
Et vous appelez comment?
Simone.
Et vous êtes bergère bénévole?
Bénévole, ouais.
Et vous faites quoi à côté, alors?
Je suis ostéopathe.
Oh, bah, non.
Donc en ce moment, je fais des séances d'ostéopathie avec le petit agneau dans le cabinet.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, il se promène pendant que vous soignez les gens?
Il se promène, il s'assoit à côté de moi et il détend les patients.
Voilà. C'est parti, allez.
Allez, on y va.
Ah bah oui, elle est beaucoup mieux, là, comme ça.
Ouais.
Donc si on veut en savoir plus, on tape Kleinamen comptoir sur Tumblr. Et on en saura plus sur votre troupeau.
Un temps de pochon, allez, c'est terminé, allez, et ça recommence demain.
Allez, hop là, c'est parti, allez.
Du 11 avril au 26 mai, Radio France organise la deuxième édition du concours Nouveaux Sons de création sonore. Téléchargez la palette sonore. Triez, samplez, bidouillez, mixez et envoyez-nous votre création. Vous serez peut-être l'un des 8 lauréats récompensés par le jury de Radio France. Plus d'informations sur nouveausons.radiofrance.fr.
Ils sont quelques dizaines. Ils viendront vous serrer la gorge. Vous aurez beau le savoir, vous ne bougerez pas de votre siège quand ils entreront. Ils s'approcheront, se déploieront en cercle et là, soudain, vous sentirez l'action de leurs mains sur votre respiration. Votre cœur sera secoué, tant le son sera pur et leur musique sera belle.
Nouvel auditorium de la Maison de la Radio, une acoustique fabuleuse. Abonnez-vous dès maintenant à la saison 2014-2015 des concerts de Radio France. Tout le programme sur radiofrance.fr/concerts, brochure gratuite au 01 56 40 15 16.
France Inter présente Deux jours une nuit, un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne en compétition au Festival de Cannes, actuellement au cinéma.
Je voulais te demander si t'étais d'accord que je reste. Ce qu'il faudrait, c'est que t'acceptes de perdre ta prime.
Avec Marion Cotillard et Fabrice Ronjon.
Tu dois pas te laisser faire. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end.
Sandra a deux jours pour convaincre ses collègues de renoncer à leur prime. Son emploi en dépend.
Essaye aussi de te mettre à ma place. J'ai envie de retravailler et d'être avec vous.
Pourra-t-elle compter sur leur solidarité? Retrouvez Marion Cotillard à 18h15 dans Jour de Fred.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour. eBay, victime d'une cyberattaque, le géant américain de la distribution en ligne va demander à tous ses utilisateurs de changer de mot de passe. Le groupe dit n'avoir pas de preuve que les pirates aient eu accès à des informations financières liées ou non à des cartes bancaires, mais la base de données piratées contenait les noms de clients, des mots de passe cryptés, des adresses de courriel, des dates de naissance, des numéros de téléphone et des adresses postales. 14 opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, relaxés en appel par la cour d'appel donc de Versailles. Ils étaient poursuivis pour s'être introduits en janvier 2013 dans la propriété de François Pinault à Grosse-Ouvre dans les Yvelines. Le milliardaire est un des actionnaires du groupe Vinci, le concessionnaire du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. L'armée thaïlandaise a organisé aujourd'hui une première réunion avec tous les acteurs de la crise politique. L'état-major de l'armée, qui a instauré la loi martiale hier, veut empêcher que le royaume divisé devienne une autre Ukraine. Les discussions ont eu lieu sans le Premier ministre par intérim. Elles n'ont pas abouti pour l'instant, mais une nouvelle séance de négociation est prévue pour demain. Barack Obama devrait s'exprimer dans l'après-midi à la Maison-Blanche devant la presse américaine. Le président américain doit parler en fait après une réunion qui a été consacrée au scandale qui secoue actuellement le ministère des anciens combattants. La presse a mis au jour de graves dysfonctionnements dans des hôpitaux gérés par des anciens combattants. Des responsables de ces établissements sont soupçonnés d'avoir mis en place un système afin de dissimuler la longueur des listes d'attente. Les retards auraient coûté ainsi la vie à une quarantaine de patients. C'est une première au Japon. Depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, un tribunal a interdit aujourd'hui le redémarrage de deux réacteurs nucléaires d'une centrale dans l'ouest nippon. Trop dangereux, a dit la justice. La société qui exploite cette centrale a décidé de faire appel. Il n'empêche, c'est un revers pour le gouvernement japonais qui s'efforce, malgré une opinion publique plus que sceptique, de relancer la filière nucléaire. Actuellement, au Japon, la totalité des 48 réacteurs sont à l'arrêt suite en fait à la fermeture de centrales ou à la mise en œuvre de contrôles de sécurité. En France, le procès de Jamel Lelmi devant les assises de l'Essonne arrive à son épilogue. Le parquet vient de requérir la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Jamel Lelmi est jugé depuis lundi pour l'assassinat de sa femme et tentative d'assassinat sur son ancienne compagne pour toucher des millions d'euros en assurance décès. Le verdict, lui, est attendu pour demain. Enfin, le ministère britannique de la Défense a décidé d'envoyer un avion militaire. Il va participer avec les gardes-côtes américains aux recherches de 4 marins britanniques disparus en Atlantique après le naufrage de leur yacht. Et c'est devenu, outre-Manche, une véritable cause nationale. Les 4 marins chevronnés revenaient en fait d'une régate internationale aux Caraïbes quand leur voilier de 12 mètres a rencontré des difficultés la semaine dernière. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Cette semaine,
France Inter, ça déménage.
France Inter fait son grand retour dans la maison de Radio France.
Ça déménage.
En fait, on déménage.
Suivez-nous sur Twitter et découvrez les coulisses du changement en photo et en vidéo.
Ça déménage.
Avec le hashtag FI ça déménage.
Encore ?
Hashtag FI ça déménage.
Jusqu'au 24 mai, France Inter fait son cinéma. Direct du Festival de Cannes.
It's amazing.
Avec Pascal Clark. Demain et vendredi à 9h10 dans Comme on nous parle.
Oh my God.
What's happening in LA? Et vendredi à partir de 21h pour une nuit blanche, ou presque, en direct du Palais des Festivals.
Samedi, avec Jérôme Garcin, le palmarès du festival en direct de la Croisette.
Pendant toute la quinzaine, retrouvez aussi les bulles de Cannes sur franceinter.fr.
L'actualité et les moments forts du festival, croqués en dessin et racontés en vidéo.
France Inter fait son cinéma
en direct du Festival de Cannes.
Toutes les infos, les rendez-vous
sur franceinter.fr.
France Inter,
la voix est libre.
Comment on se retrouve, Frédéric Lodéon ?
Eh ben voilà, pour une fois dans le même studio, tout beau, tout nouveau, formidable. On voit la scène, moi je suis content comme tout.
Eh ben profitez-en alors.
C'est très gentil. Et on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
À tout à l'heure.
Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Et oui, c'est joyeux, c'est joyeux. 10 ans après, on est revenu dans la maison ronde. Je vous assure que c'est un grand plaisir. Et il faut se réjouir. Et Jean-Sébastien Bach a connu bien des malheurs, bien des deuils. Il savait aussi profiter des bienfaits que le bon Dieu envoyait à lui, à sa famille et aux autres. Il le disait assez volontiers. Donc, après des efforts considérables, parfois, il aimait bien les bonnes tables, il aimait bien les assemblées amicales. Et il a écrit à la fin, à la conclusion de sa 4e suite pour orchestre, une réjouissance. Thank you. réjouissance de la 4e suite pour orchestre Jean-Sébastien Bach par un ensemble qui mélange plusieurs langues, Bach Collegium Japan. Et c'est Masaaki Suzuki qui dirige cet orchestre-là. Et ça prouve que le génie de Bach, un Allemand, un Européen, a transcendé toutes les frontières et passé au-delà, puisqu'on le vénère aussi au Japon, et puis dans le monde entier, bien sûr. Alors pourquoi le quitter ? C'est pas la peine, on va rester un petit peu avec lui. Pour un mouvement absolument adorable du concerto pour clavier en la majeur, et c'est un allegro, et là on a envie de dire la virtuosité d'un concerto, c'est quelquefois un peu futile, le soliste cherche à montrer ce qu'il sait faire, mais non, pour moi la virtuosité peut être aussi l'expression de la joie de vivre et tout simplement de la vitalité.